L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et vous êtes dans l'émission Rencontre Lusophone. Nous émettons en direct sur les ondes de Radio Résonance. J'espère que la semaine fut bonne pour tout le monde, car nous savons, et oui, que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et cela nous fait réellement plaisir. En tout cas, nous allons tout faire pour que vous restiez fidèles au poste. Ah, oui, ça va Jean-François, la forme ?
Ça va, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, je serai tout seul dans le studio, et mon copain Jean-François à la technique.
Chacun son tour.
Eh oui, Hélène nous fait encore la gueule, mais bon, je pense qu'elle aura fini de bouder pour la semaine prochaine, il y a des chances.
Je pense que ça va se calmer.
Bon, non, je déconne. La Vénarde, elle est partie faire une escapade au Canada et aux États-Unis. Et comme nous savons qu'il y a une forte communauté lusophone dans ces deux beaux pays, nous en profitons pour vous envoyer un petit coucou de Bourges. Ah oui, au fait, c'est en France, Bourges, à nos amis portugais du Canada et des États-Unis.
Résonance 96.9.
Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Mon billet d'humeur d'aujourd'hui est un véritable coup de cœur pour une vieille tradition portugaise. Qui dit mai, dit fin d'année scolaire qui se profile. Eh bien, au Portugal, ce mois de mai signe la Queima das Fitas. Ce qui veut dire que dans les grandes villes universitaires portugaises, les étudiants fêtent la fin de leurs études. Un peu comme une page qui se tourne et un moment avec beaucoup, beaucoup d'excès. Mais c'est aussi et surtout le point culminant de la praxe académique, une coutume vieille d'un demi-millénaire et à travers laquelle les étudiants développent une structure parallèle à celle de l'université. C'est très caractéristique du Portugal, puisque c'est le moment de l'année où l'on voit des groupes d'étudiants vêtus de leurs grandes capes noires arpenter les rues pavées des villes. On lui dirait presque tout droit sorti de l'univers magique d'Harry Potter. Pour la petite histoire, c'est en fait J.K. Rowling qui, ayant vécu de longues années à Porto, se serait inspiré de la praxe pour créer l'univers de sa saga Harry Potter. Au Portugal, les étudiants sont pourtant des étudiants tout comme les autres. Ils n'ont pas de baguette magique, mais ont choisi de porter l'uniforme pour suivre la fameuse praxe. Et pourtant, l'habit n'y est pas plus obligatoire depuis 1924. Mais le sens de la tradition y est encore tellement fort que la société étudiante met un point d'honneur à la perpétuer. En fait, le phénomène est né au XIVe siècle à Coimbra, l'une des plus vieilles universités d'Europe. À l'époque, les rivalités entre les étudiants étaient telles que l'appartenance à un groupe devenait capitale. Alors oui, cette fameuse plage a donc débuté au Moyen-Âge. Et tout comme aujourd'hui, c'était le moment où les anciens devaient intégrer les plus jeunes et les cadrer. Comme quoi, le bizutage ne date pas vraiment d'hier. En tout cas, c'était une façon de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et ainsi, nobles et non-nobles se retrouvaient au même niveau, un sentiment qui perdure aujourd'hui encore. La plage ayant pour finalité d'effacer les différences sociales. Sa devise, c'est toujours « Doura praxis, sed praxis ». Même si elle est dure, la praxe reste la praxe. Praxe, P-R-A-X-E, un mot qui vient du latin « praxis » et qui signifie la pratique. Grâce à cette praxe, chaque université portugaise possède donc une charte dont les lois régissent le quotidien de l'étudiant. Vieille de plusieurs siècles, il est donc normal que certaines de ces règles puissent nous paraître aujourd'hui un peu désuètes. À Coimbra, par exemple, certaines associations d'étudiants interdisent aux nouveaux étudiants d'être dehors après minuit sous peine de sanction. Eh oui, toutes ces normes mènent la vie dure au caloiro, l'étudiant de première année. C'est bien simple, et s'il ne respecte pas le code, la punition l'attend. Et le pauvre petit caloiro n'a donc pas son mot à dire, puisque considéré comme étant en bas de l'échelle, il est soumis à ses supérieurs directs, c'est-à-dire les doutores et les vétérans. On peut donc dire que la Plache est une société hyper hiérarchisée, commandée par un président élu, le Dux Veteranum. Mystère, mystique et secret sont donc des composants de cette Plache portugaise. Et tous les pouvoirs sont donc donnés au Dux Veteranum, qui peut même fixer des rendez-vous nocturnes aux aspirants désirant faire partie du conseil afin de les questionner sur leur motivation. Pour en revenir à l'uniforme de l'étudiant, on peut dire que celui-ci tient un rôle prépondérant dans la Plache qui n'existerait pas sans lui. Pour punir, par exemple, l'habit doit être impérativement porté. Autre caractéristique de l'uniforme, c'est la façon dont la cape doit être portée. Et puis en dehors de l'uniforme, trois objets symboliques illustrent également la Plache. La cuillère, la meque, une sorte de gourdin, et une paire de ciseaux. La cuillère sert à punir, on s'en sert pour taper sur les ongles des contrevenants. Elle symbolise la pauvreté de l'étudiant qui autrefois portait sur lui une cuillère en bois pour se nourrir à la soupe populaire. La meque symbolise l'autorité. C'était l'arme de l'étudiant à l'époque de la Renaissance. Un objet bien évidemment interdit aux étudiants de première année. Et la paire de ciseaux qui, bien que toujours présente de nos jours, n'est plus utilisée puisqu'autrefois, il s'agissait de couper des cheveux de l'étudiant afin de le sanctionner de sa mauvaise attitude. Et il ne faut pas oublier les fameux rubans de couleur fièrement exhibés sur les capes et les cartables pour chaque discipline et chaque université. Comme tous les ans à cette époque, la tradition de la Plache est remise en cause parce que son aspect rude et presque militaire pose que quelquefois un réel problème de sécurité qui ne joue pas vraiment en sa faveur. Divers drames ayant quelquefois secoué le Portugal. Les fervents défenseurs de cette tradition séculaire diront d'ailleurs que la Plache ne tue pas les gens. C'est la stupidité et les dérives de certains qui créent des soucis. Il faut bien reconnaître que pour en rajouter, les médias ne relatent très souvent que le côté négatif de cette Plache sans réellement s'intéresser aux valeurs qu'elle véhicule. Puisqu'il est vrai que lorsqu'elle est pratiquée avec intelligence, elle peut forger de réelles amitiés pour la vie. L'un des temps forts et les plus beaux de cette Plache est la sérénade, une chanson généralement interprétée par des garçons et qui ouvre la Queima das Fitas. Un vrai moment de partage avec la population.
Quase em segredo. L'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Je pense que vous aviez deviné que nous allions parler des inventions portugaises. Et je dois avouer, parler des inventions portugaises n'était pas gagné d'avance. Nous ne savions pas s'il fallait les énumérer par domaine, comme par exemple la médecine, les transports, ou bien les raconter chronologiquement de la plus ancienne à la plus récente, sous forme de petites histoires. Eh bien, c'est la seconde solution que nous avons optée. Car dans le monde de l'invention et des inventeurs, nous avons des certitudes légèrement faussées. Nous pensons tous, et peut-être avec raison quelquefois, que la grande majorité des inventions ne viennent que de quelques pays. Évidemment, il n'y a pas plus faux. Tous les pays du monde ont connu leur lot de découvertes et d'inventeurs. De plus, dans ce monde impitoyable, beaucoup d'inventions ont été plagiées. Et souvent, le nom du vrai découvreur originel tombait dans l'oubli. Et l'histoire ne retenait que le nom de l'usurpateur. Et bien sûr, souvent les deux ne faisaient pas obligatoirement partie du même pays. Par la suite, à partir du XVIIIe siècle, des bureaux de brevets verront le jour dans la plupart des pays de la planète. Un brevet déposé donne l'exclusivité d'exploitation à l'inventeur pour une période de 21 ans. Passé ce délai, l'invention tombe dans le domaine public. On estime que depuis 500 ans, approximativement, plus de 25 millions de produits, de procédés et de machines ont été inventés. Incroyable, n'est-ce pas ? L'ingéniosité de l'homme est sans limite. Avant le XVIIIe siècle, la protection des inventions était accordée par les rois, sous forme de patente, et donnait par la même l'exclusivité à l'inventeur. Un tant soit peu qu'il était en bon terme avec le roi. Eh oui, c'était ainsi. Il fallait être copain avec sa seigneurie, si tu voulais que tes inventions ne soient pas piquées, tel Léonard de Vinci qui faisait les yeux doux à François Ier, ou peut-être bien le contraire. Plus tard, les inventions et découvertes dépendront grandement de l'utilité et du besoin qu'il pouvait y avoir sur le moment. Un exemple, parmi tant d'autres, fut la mise au placard de la télévision, pourtant mise au point en 1936. Mais quand la guerre éclata, elle n'avait plus son utilité. L'effort de recherche fut plutôt mis dans d'autres domaines, tel l'ordinateur, inventé pour déchiffrer les codes Enigma des Allemands, mais aussi la mise au point de la pénicilline qui fut découverte par Fleming en 1929 pour soigner les blessés sur les champs de bataille et bien d'autres encore, du moment qu'elle participait à l'effort de guerre.
Fun at disco no dancing, yeah, yeah, yeah. Já não sei, mulher olhou-me, assim fiquei apaixonado como um herói. feito uma fita, olhei a olhou-me, pareceu-me bonita. Tinha um colar de imitação, beijei-a na mão. Sorria, sorria, mandou-me para os meus, dissemos adeus. Oh, foi na disco no dancing, yeah, yeah, yeah. Já não sei, olhei a olhou-me, assim fiquei. Apaixonado como um herói de uma fita, olhei a olhou-me, pareceu-me bonita. Tinha um colar de imitação, beijei-a na mão. Sorria, sorria, mandou-me para os meus, dissemos adeus.
Et les Portugais dans tout ça? Eh bien, ils inventèrent la caravelle au début du XVe siècle. Bateau robuste et véloce pour la haute mer. Et la plupart des instruments de navigation qui allaient avec. Car ils en avaient bien besoin pour leur expédition au-delà des océans. Bien sûr, l'astrolabe et les quadrants, inventions arabes, existaient déjà. Mais ils en rajoutèrent d'autres. Comme le balestilia, qui était un instrument de mesure marine qui permettait de trouver l'azimut. Cela consistait à mesurer en degrés la hauteur entre l'horizon et l'étoile, ou le soleil, selon l'astre que l'on pointait. Le nonio qui était une sorte d'astrolabe, beaucoup plus précis, inventé par Pedro Nunes au XVIe siècle. Et savez-vous pourquoi la vitesse des bateaux est dite en nœuds? Alors que sur Terre, les voitures et autres modes de locomotion est en kilomètres heure, ou bien en miles à l'heure? Eh bien, c'est grâce à un Portugais, du nom de Bartolomeu Crescenzo, qui, vers la fin du XVe siècle, inventa un instrument pour mesurer la vitesse d'un bateau. Elle consistait à dérouler une grosse bobine de corde qui avait des nœuds à intervalles réguliers, sur un laps de temps donné. Il suffisait de compter les nœuds déroulés et l'adapter sur une heure. Et cela vous donnait la vitesse en nœuds. Simple, mais ingénieux. Toutes ces inventions ont été sûrement un jour développées dans la célèbre école navale de Sagres, dans l'Algarve, au sud du Portugal. Ou Dom Afonso Henrique y faisait venir le plus grand scientifique du XVe siècle. Même le portulan, qui était une invention génoise, y fut amélioré et perfectionné. Les plus beaux et les plus précis sont portugais. Dans l'art de la guerre, les Portugais ne furent pas en reste. Ils inventèrent aussi, pour les grandes découvertes, au XVe siècle, une épée spécialement créée pour les marins. Elle était peinte en noir pour éviter les reflets et passer inaperçue la nuit. L'épée d'érable noir, comme on l'appelait, se caractérisait par des anneaux de protection sur la garde, arrondis vers la lame, mais non fermés, ce qui permettait pendant les combats au corps à corps de coincer l'épée de son adversaire, et si possible, de la casser. D'où son autre nom de colonia, dû à la ressemblance succincte à des testicules, dont la lame aurait représenté un phallus. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que c'était une arme très redoutable. Évidemment, dans cette période, dans le domaine de l'art et de la construction, apparurent l'art manuelin, un gothique baroque bien portugais. Les azulejos, bien que d'origine arabe, se bonifia au Portugal. Et puis, pendant l'éclipse espagnole, pas ou peu de choses virent le jour. Il n'y a vraiment qu'à partir du XVIIIe siècle que certaines choses apparurent.
Eu sou um pobre velho louco que a saudade enjeitou. Guardo a alegria num canto e a tristeza no que restou. Eu nunca fui a direito, isso deu cabo de mim. Quando te perdes em estradas, não tardas a achar um fim. e um copo de vinho em cima da mesa. Um giradiscos berra música francesa. O gato aos pés quase a adormecer. Não há melhor maneira de morrer. Não há melhor maneira de morrer. Sempre fui bom em planos, sempre fui mau em ação. Tento uma vida de luxo, levo uma vida de cão. Não sei quem traça os destinos, mas deve ser engraçado essa gente de alta roda que dita a moda do fado. Meio copo de vinho em cima da mesa. Um giradiscos canta música francesa. O gato aos pés quase a adormecer. Não há melhor maneira de morrer. Não há melhor maneira de morrer. Vais ficar triste e sozinho, já dizia a sábia gente. Essas lembranças de esperança batem leve, levemente. Como quem chama por mim, como quem sobra um conselho. Amigos, eu já vou tarde, eu sou louco, pobre e velho. Já não há mais vinho e a música acaba. Soa a hora certa na porta de entrada. O gato dorme e os pés começam já a aquecer. Não há melhor maneira de morrer. Não há mesmo mais nada a fazer.
En 1710, un fou, prêtre de son état, s'élança du haut d'une des tours du Castel Saint-Georges, à Lisbonne, dans un engin de son invention, et vola. Il atterrira, ou tomba, selon les témoignages de l'époque, qui assistèrent à l'exploit, 1 kilomètre plus loin. D'ailleurs, cette histoire me rappelle d'ailleurs un autre fou qui s'élança du premier étage de la tour Eiffel, en 1912, pour démontrer l'efficacité de son invention, un habit parachute de sa fabrication, destiné aux pilotes d'avion. Contrairement au prêtre volant, il alla s'écraser 50 mètres plus bas devant une foule médusée. Franz Retschelt, comme s'appelait ce pauvre malheureux, contribua à sa façon au progrès de l'aventure aérienne. L'histoire est pleine de ces cinglés qui ne reculaient devant rien pour démontrer l'utilité de leur invention. Évidemment, tous n'y réchappaient pas, car il fallait vraiment ne pas avoir froid aux yeux pour s'élancer du château Saint-Georges. Ce génial inventeur, qui avait pour nom Bartolomeo de Gusmão, fut le premier homme volant de l'histoire de l'humanité. Et pour cela, il se servit d'un aérostat. Et oui, vous avez bien entendu, 59 ans avant les frères Montgolfier. Maintenant, certains affirment que l'épisode du château n'est qu'une légende. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. N'empêche que ce qui est avéré, c'est qu'il est le premier homme à avoir volé sur un plus léger que l'air. Autre nom que l'on donne au ballon ascensionnel. Il naquit au Brésil de parents portugais en 1685. Déjà adolescent, pendant son séminaire, il inventa un système pour acheminer l'eau vers l'école qui était située au sommet d'une colline à plus de 100 mètres de haut. Le brevet qu'il déposa en 1707 en fit le tout premier Brésilien à déposer un brevet. Mais il est passé à la postérité pour avoir inventé le tout premier aérostat en 1709, quand il s'installa au Portugal. Son engin fut surnommé à Passarola, qui veut dire sensiblement cage d'oiseau, car on n'a jamais trop su à quoi pouvait ressembler sa machine. Sûrement que les documents et témoignages de l'époque ont dû disparaître au moment du tremblement de terre de Lisbonne. Malheureusement pour lui, son invention n'eut pas de suite. Il était trop en avance sur son temps. De plus tard, il fut inquiété par l'Inquisition et s'exila à Tolède, en Espagne, où il mourut d'une maladie contractée dans l'hôpital qu'il hébergeait. Il avait 40 ans. Que de choses ce génie aurait inventé par la suite s'il avait survécu.
lápis, tantos lápis, são de um lobos, são de uaus, uns são pagos, outros gratos, finos, pequenos e grossos. Toda a gente fala neles e a coisa tem laracha, mas para acabar com a doença vou pedir uma borracha. Oh rocha, empresta a borracha, tira a borracha da caixa. Empresta a borracha, oh rocha, tira da caixa a borracha. Apaga o lápis com a borracha do rocha e mata o lápis com o rocha da borracha. Apaga o lápis com a borracha do rocha e mata o lápis com o rocha da borracha. Anda! Fora lápis! Tantos lápis, são do lápis, são do alvos. Uns são pagos, outros grátis, finos, pequenos e grossos. Toda a gente fala neles e a coisa tem laracha. Mas para acabar com a doença vou pedir uma borracha. Oh rocha, empresta a borracha, tira a borracha da caixa. Empresta a borracha, oh rocha, tira da caixa a borracha. Apaga o lápis com a borracha do rocha e mata o lápis com o rocha da borracha. Apaga o lápis com a borracha do rocha e mata o lápis com o rocha da borracha. Empresta a borracha, tira da caixa a borracha. Apaga o lápis com a borracha do rocha e mata o lápis com o rocha da borracha. Apaga o lápis com a borracha do rocha e mata o lápis com o rocha da borracha. Oh rocha, empresta a borracha, tira a borracha da caixa. Empresta a borracha, rocha, tira da caixa a borracha. É melhor não achas? É melhor não achas? É melhor não achas?
C'était au Conjunto Mario Simon, ça, Borracha de Roche. Pourquoi Borracha? Parce que c'est de la gomme. Et ouais, c'est une belle transition parce qu'on va parler de gomme. Parce que le latex, qui provient de l'arbre Hevea, était connu par les Indiens d'Amérique. En 1752, un certain Magellan, qui n'a rien à voir avec le célèbre navigateur, du moins nous le pensons, fut le premier à avoir eu l'idée de s'en servir pour effacer les traits de crayon. La gomme à papier était née. Eh oui. Dans le domaine des vins et spiritueux, à la même époque, nous trouvons le premier AOC de l'histoire, qui a sûrement dû être sans contexte le Porto. Son histoire commence en France en 1667. Colbert, alors ministre des Finances de Louis XIV, augmente les droits de douane sur les vins français. Les Anglais, grands buveurs de vin devant l'Éternel, furent scandalisés et arrêtèrent d'en importer. Ils se tournèrent tout naturellement vers le Portugal. Ils se mirent à importer un vin sec, écorcé, des environs de Porto. Hélas, le vin en question supportait très mal le voyage et arrivait souvent en l'état de vinaigre. C'est là que ces diables d'anglais ont une idée de génie. Pour limiter ces inconvénients, ils y ajoutent du brandy, c'est-à-dire de l'eau de vie de vin. Il perd de son acidité, mais en partie conserve son sucre. Le Porto est né. Victime de son succès et pour satisfaire une demande de plus en plus grandissante, des pratiques douteuses se mettent en place. On y rajoute du sucre ou du jus de sureau pour lui donner de belles couleurs et de bien entendu les ventes par la suite dégringolent. Voyant la situation désastreuse, Pombal prend les choses en main. Et en 1756, le négoce du Porto passe sous contrôle de l'État et la Compagnie Gérale d'Agriculture das Vignes do Alto Douro voit le jour. Elle obtient le monopole du commerce avec l'Angleterre. La zone de production est délimitée par 335 bornes dans la vallée du Douro, délimitant une zone qui court jusqu'à une centaine de kilomètres de Porto. L'année d'après, les vignes de cette vallée sont classées selon leur qualité. Une véritable appellation d'origine contrôlée est mise en place. Grâce à ces quelques mesures, le Porto, par la suite, est devenu mondialement connu.
Vinho da Clarinha, 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 vinho, vinho da Clarinha, 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 vinho, vinho.
Oh Clarinha, as pintas da tua blusa são da cor tão vermelhinha, do vinho dentro da infusa,
são da cor tão vermelhinha,
do vinho dentro da infusa. Oh Clarinha, dá-me um pouco do teu vinho, enche a minha canequinha, que é dia de São Martinho.
Enche a minha canequinha, que é dia de São Martinho.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a malta. Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a malta.
Ai, ai.
Eu sou levado da breca, vais beber uma pinguinha aqui da minha caneca.
Ai, vais beber uma pinguinha aqui da minha caneca.
Oh Clarinha,
podes beber à vontade,
verás ninguém adivinha segredos da mocidade.
Verás ninguém adivinha segredos da mocidade.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a malta. Vamos lá beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a malta.
Oh
Clarinha, das lindas pintas tamanhas, para seres mais bonitinha, traz lá umas castanhas.
Para seres mais bonitinha, traz lá umas castanhas. Oh Clarinha, com teu saboroso vinho
e com castanha assadinha, todo o ano é São Martinho.
E com castanha assadinha, todo o ano é São Martinho.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a malta. Vamos beber,
clarinete,
depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a malta. Vamos beber,
clarinete,
depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a malta. Depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a malta.
Il y a encore un domaine que nous n'avons pas parlé, c'est le monde de la musique. Vous pensez bien qu'au fil des siècles, les Portugais n'attendaient pas qu'on leur amène des instruments d'autres pays pour en jouer. Ils ont créé leurs propres instruments, qui parfois, quand même, ressemblaient à ceux d'autres contrées. Faisons donc un petit tour d'horizon. Os castanholes. Os castanholes, c'est des castagnettes. Évidemment, à part les Espagnols qui les ont popularisés, on les trouve un peu partout dans les régions portugaises. Ou adouf. Ou adouf, c'est une sorte de petit tambourin de forme carrée, faisant 45 cm de côté. Surtout manié par les femmes qui en jouent, souvent dans les fêtes et romarias, qui est popularisé dans les régions centre-est du Portugal, plus particulièrement la Beira-Baixa. Agata Mirandesa. Agata Mirandesa, qui, comme son nom l'indique, ne l'indique pas, est originaire du nord du Portugal, et plus précisément du Trás-os-Montes. C'est tout simplement une cornemuse. Et oui, le nord du pays est très tradition celtique, avec les instruments et la musique qui va avec. Les historiens sont assez partagés. Et certains pensent que des cornemuses du même acabit apparurent dans la région de Guarda et de Castelo Branco. Bien sûr, il y a aussi la guitare portugaise, à 12 cordes, qui sert si admirablement le fado. Les cordes sont si tendues qu'il n'y a pratiquement que des hommes qui sont capables d'en jouer. Et tout en se servant donc le postiche pour en faire ressortir les sonorités recherchées. La saronca. La saronca est vraiment un instrument typique du Portugal. Il servait dans les chants de Noël, Noël en Tejo. Il se compose d'un récipient creux, généralement en terre cuite, recouvert d'une peau tendue sur le dessus, en peau de chèvre ou de mouton. Dans une variante, elle est faite de vessie de porc. Avec en son centre un trou dont elle a passé un bâton de bois assez long. Le son est obtenu en faisant bouger de bas en haut le dudit bâton. Inutile de vous dire que ce qui en sortait était assez spécial. Cela ressemblait quelque peu à un ronflement. Et puis, il y a aussi au cavaquinho, une petite guitare à quatre cordes, originaire do Minho, dans le nord du Portugal, et qui fut importée au Brésil, au Cap-Vert, au Mozambique, à Madère, mais aussi à Hawaï. Des immigrants portugais l'introduisirent sur l'île en 1867. Dès lors, le succès fut immédiat, au point qu'ils se fabriquèrent leur propre cavaquinho, qu'ils baptisèrent ukulélé. L'engouement pour ce nouvel instrument fut tel que l'ukulélé entra dans la tradition et le folklore hawaïen. Il suffit d'écouter l'immense, dans tous les sens du terme, Kamaka Wiwo, interprété Somewhere Over the Rainbow, la chanson du magicien d'Oz pour s'en convaincre. Pour l'intermède musical, une fois n'est pas coutume, ça ne sera pas une chanson portugaise. Mais os Minhos, en l'écoutant, pourront se dire que c'est grâce à eux que le ukulélé existe à Hawaï. Et si nous parlions du XXe siècle maintenant, il faut dire qu'il fut assez riche. Mais avant, en toute fin du XIXe siècle, un prêtre portugais du nom de Manuel António Gomes, et oui, encore, à croire qu'il n'y avait que des curés au Portugal pour inventer des choses, un prêtre portugais, disais-je, qu'on surnommait le prêtre Himalaya, dû à sa grande stature, inventa une drôle de machine. Il lui donna comme nom le périliophore, qui voudrait dire en ancien grec « Je ferai venir le feu du soleil ». Qu'est-ce que ça ? C'était tout simplement un four solaire capable d'atteindre des températures élevées pour pouvoir fondre différents matériaux. C'était un ingénieux système qui consistait dans un miroir parabolique de 80 mètres carrés quand même, fixé sur une ossature de 13 mètres de haut et par un jeu de milliers d'autres petits miroirs disposés de façon à réfléchir la lumière du soleil en un point unique, où l'on mettait le matériau à fondre. Cela ne vous rappelle rien ? Bah oui, c'est tout simplement la technologie et le principe du laser qui sera inventé des décennies plus tard. En 1912, des sénateurs portugais, pour honorer la mémoire du Brésilien José Maria da Silva, qui fut un fervent défenseur de l'instauration de la République portugaise, imaginèrent un laps de temps de silence. Il faut dire que cette minute de silence dura une demi-heure, ce qui était exagérément trop long. Dans les années qui suivirent, les Portugais réduisirent sérieusement ce temps de recueillement. Plus tard, en 1919, les Anglais reprirent l'idée pour commémorer le premier anniversaire de la fin de la guerre. On émit que 5 minutes de silence étaient suffisants. Mais le roi de l'époque, qui était George V, jugea, lui plutôt, que c'était encore de trop, et instaura 2 minutes, une pour les morts et une pour les vivants. En 1922, ce fut au tour des Français de reprendre le principe de la minute de silence, qui, en fin de compte, durait 2 minutes. Comme de bien entendu, et souvent dans ces cas-là, on attribua la paternité de la minute de silence aux Anglais. Alors, rendons à César ce qui appartient à César. C'est bel et bien les Portugais qui furent les premiers à employer ce rituel. Et surtout, par la toute jeune République portugaise, qui avait tant de merveilleuses idées, peut-être un peu trop en avant sur leur temps. Ça devenait vraiment une habitude au Portugal.
Portugal, terra maravilhosa, da fé do bagaço e da sardinha, de Nazaré, de Vila Viçosa, do Patilhas e do Ventoinha. Portugal, casa de cães vadios, esteio de meus pais, de meus avós, courela de primos e de tios, de marrecos e de bisagós. Domingo a Timor, fazemos amor com as mulatas locais. De Goa a Angola, nós demos à sola, fomos expulsos pelos canibais. Bonecos de Barcelos, mesmo ao pé da terra dos caramelos. Que lindo que é ter o mar ao pé, Portugal é muita peixe. Mulatas locais, de Goa a Angola, nós demos à sola, fomos expulsos pelos canibais. Pátria dos bonecos de Barcelos, mesmo ao pé da terra dos caramelos. Que lindo que é ter o mar ao pé, Portugal é muita fixe. Que lindo que é. O que é lindo, Serra?
Ter o mar ao pé.
Portugal é muita, Portugal é muita, Portugal é muita feia.
C'était aux Irmãos Catita, Portugal, terra maravilhosa. Ah oui, et c'était pas la c'était la plus jolie. En 1949, un neurochirurgien portugais du nom d'António Egas Moniz reçoit le prix Nobel de médecine pour une intervention chirurgicale de son invention, la leucotomie. Elle consistait à découper de petites parties du lobe frontal en enfonçant des instruments dans des trous pratiqués au sommet du crâne, capable, selon Moniz, de soulager la folie et la plupart des gens qui étaient violents et limite psychopathes. En 2006, ce procédé a été taxé de, je cite, « de pire méprise de l'histoire des sciences et de l'esprit ». Ben, tu penses, au point qu'un collectif aux États-Unis suggéra d'annuler le prix Nobel que Moniz avait reçu en 1949. Leurs efforts furent vains. Ce qui fit la soi-disant barbarie de la lobotomie, nom donné par les Américains, c'est sans contexte la pratique de l'intervention par Walter Freeman, un chirurgien américain qui pratiqua pas loin de 3500 opérations avec l'aide d'un pic à glace. Sa méthode différait de celle de Moniz. Plus besoin de faire des trous en haut du crâne. Il suffisait de passer par le plafond de l'orbite, juste au-dessus de la paupière supérieure, avec son fameux pic à glace. Bizarre, j'ai soudainement mal à la tête. Il parcourut les États-Unis, allant d'asile en asile pour opérer à tour de bras. Il faisait jusqu'à 25 opérations par jour, armé de son terrible instrument. Tout y passait, vieux et jeune. Même un enfant de 4 ans que sa mère trouvait qu'il était souvent dans la lune. Évidemment, ça en laissait plus sur le carreau que ça n'en guérissait. Bref, une belle invention portugaise à vite oublier. Toujours dans le domaine de la médecine, dans ces dernières décennies, il eut le médicament Gébénix. Il était préconisé contre les crises d'épilepsie. La méthode All on Four, inventée par le dentiste portugais Paulo Malo dans les années 90, qui consiste à installer des prothèses de 12 à 14 dents à l'aide de 4 implants en titane fixés sur les mâchoires. Et puis, dans un tout autre domaine, il y a le multibanque, invention 100% portugaise, système qui relie toutes les banques du pays entre elles. Et puis aussi, dans le transport, la Via Verde, système qui permet aux automobilistes de ne pas s'arrêter au péage d'autoroute. Et je ne parle pas des portiques au-dessus des autoroutes que les autres pays européens commencent à regarder d'un œil intéressé. Ah oui, et puis il y a aussi la carte SIM, rechargeable. Et puis ces derniers temps, une équipe de chercheurs à l'université d'Aveiro sont sur le point de créer un volant qui, au contact des mains, préviendrait le conducteur de son état de fatigue. Sans parler du ciment écologique mis au point dans la même université. Bon, maintenant vous allez me dire que pour des Portugais, ça tombe sous le sens. Et puis bien sûr, j'en oublie. Pour un soi-disant petit peuple, c'est déjà pas mal, je trouve. Les Portugais, à toutes les époques, ont toujours eu cette soif de reconnaissance vis-à-vis des autres nations européennes. « Hey, je suis là !» crie le petit peuple portugais, coincé à l'extrême sud-ouest de l'Europe, compressé par une Espagne gloutonne qui tant de fois a bien essayé vainement de l'engloutir. C'est cette même soif de reconnaissance qui les a incités à prendre le large sur des bateaux, à la découverte du monde. C'est celle-là même qui a fait sortir du pays, sous Salazar, des centaines de milliers de Portugais pour trouver une vie meilleure. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est les Portugais, avec les Espagnols, qui ont inventé le monde moderne, en faisant découvrir l'immensité et la richesse de notre si jolie terre, avec les grandes découvertes du XVe et XVIe siècle.
Então tu queres, mas é tarde demais. amanhã, deixa lá, não faças hoje, porque amanhã tudo se há de arranjar. Ai, tu bem sabes que o trabalho foge, mesmo de quem diz que quer trabalhar. Eu sei que tu andas a procurar esse lugar que é certo para contigo. Do que aparece tu não consegues gostar, e do que gostas já está preenchido. Nada fazes para o agarrar. É para amanhã, bem podias viver hoje, porque amanhã quem sabe se vais cá estar. Ai, tu bem sabes como a vida foge, mesmo de quem diz que está para adorar. É para amanhã, deixa lá, não faças hoje, porque amanhã tudo se há de arranjar. Ai, tu bem sabes que o trabalho mesmo de quem diz que quer trabalhar.
Trabalhar, 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 trabalhar.
É para amanhã, para amanhã, é para amanhã.
Ficava comboio da feira. na baixa vai, leva minha namorada. Comboio da beira baixa vai, leva minha namorada. Comboio da beira baixa, vem chegando a estação. Comboio da beira baixa, vem chegando a estação. Nas estradas de aldeia vai, para minha perdição. Nas estradas de aldeia vai, para minha perdição. Num lado te leva a lua, noutro atrás o sol dourado. Num lado te leva a lua, noutro atrás o sol dourado. No meio vai a dizer, oh ai, o nosso tempo passado. No meio vai a dizer, oh ai, 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 ai.
Un maximum de musique, un maximum de son.
96.9, c'est Radio Résonance.
Et oui, c'est fini. Une heure, c'est rien, malgré qu'aujourd'hui, nous étions un peu en avance. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et à samedi prochain, de bonne humeur, si possible. Je laisse la parole pour la fin, la parole à Jean-François. Ciao.
Chers auditeurs de Rencontres Lusophones, merci à vous de nous être fidèles. Rendez-vous ici même demain dimanche à 20h30 pour la rediffusion de cette émission. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de Radio Résonance Bourges. Rendez-vous ici même samedi prochain pour une prochaine émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et sortez masqués. À demain.
Se a longe achar que nunca vai servir, caguei o escudo de me aproximar. Só ponho creme nas manchas da pele se funcionar. Recordo o acordo do corda ao despertador e ponho aquilo que eu tiver de pôr. A cortisona acaba. Servir, caguei o escudo de me aproximar.